politique religieuse, il faudrait donc faire un cours sur Épictète. À ce moment-là, vous comprendriez ce que c'est que l'éthique religieuse. Il n'y a aucune analyse chez Épictète, une description. Mais des descriptions très belles. Entre autres sur la remise totale de tout nous-mêmes à la volonté de Zeus. Donc l'abandon. Et je crois que pour Épictète, c'est l'attitude de l'abandon qui est fondamentale. Alors il faut se demander, puisqu'au fond, il n'y a pas beaucoup d'éthique religieuse. Il y a Épictète, et je crois, dans la théologie biblique, on verrait aussi une éthique religieuse. Mais ce fameux passage que je vous lisais hier, hein, dans Samuel, il y a tout un aspect religieux là derrière. Ça c'est sûr. Qui est très très intéressant. Parce que je crois que l'éthique de l'ancienne alliance, c'est une éthique religieuse. Elle est commandée par la foi, c'est sûr. Mais chez les patriarches, et avec Moïse, le point de vue de la loi a pris une telle importance qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment une éthique religieuse avec le point de vue de la loi. Ça, on essaiera de le préciser progressivement. Mais avant de continuer, il y a quelques petites questions qu'il faut se poser. Parce qu'il faut répondre aux questions, hein. Je m'engage d'y répondre, sauf quand c'est trop extrinsèque. Le sacrifice et l'oblation qui sont des actes religieux sont-ils aussi des expériences religieuses? C'est sûr. L'oblation et le sacrifice sont des expériences religieuses. Quand vous faites un acte d'offrande de votre vie, c'est une expérience religieuse. Un sacrifice. Évidemment, nos sacrifices sont de dimension chrétienne et donc sont reliés toujours au sacrifice du Christ. Mais le sacrifice est aussi un acte religieux. Quand, par amour pour le Christ, vous supprimez telle ou telle chose qui vous est tellement agréable, vous entrez dans la vie religieuse. C'est un grand sacrifice. Parce que vous n'allez pas au cinéma tous les jours. C'est un grand sacrifice. Pour certains, c'est un sacrifice insupportable. Et qui dit bien insupportable. Donc on ne peut pas le supporter. Par le fait même, on retourne au cinéma tous les jours. Alors si on vivait à Paris, encore à la rigueur, on pourrait disparaître sans que le portier s'en aperçoive et sans que le prieur s'en aperçoive tous les jours. Et on pourrait aller au cinéma et rentrer pour l'heure de matine, n'est-ce pas? Mais ici, c'est plus difficile. Grâce à Dieu. La tentation est moins forte. Mais ce sont des expériences religieuses, le sacrifice, l'oblation. Quelle est la différence entre la foi et l'adhésion à des traditions religieuses, dans le cas où celle-ci nous révèle une personne, Dieu créateur? Eh bien, la foi, c'est une adhésion personnelle à Dieu qui nous parle. C'est une adhésion personnelle à Dieu qui nous parle. La foi, le premier moment de la foi, Abraham qui reçoit la révélation, Dieu qui lui parle. Dans la foi, il y a toujours une relation intersubjective, comme on dirait aujourd'hui, une intersubjectivité. La foi est personnelle, avant tout, premièrement, une relation personnelle avec Dieu, pour avoir une foi vivante, c'est ça. Il y a une expérience profonde dans une adhésion à la parole de Dieu qui m'est adressée. Tandis que les traditions religieuses peuvent au point de départ, reposer sur la foi. Prenez les traditions religieuses chrétiennes. Il y a des traditions religieuses chrétiennes. Comme dans l'Ancien Testament, il y a des traditions religieuses qui reposent aussi sur la foi. Puisqu'il y a Abraham au point de départ. Mais ce n'est pas la même chose, la foi qui nous fait remonter à la source et les traditions qui sont ce que Dieu a transmis par la loi. Ce que Dieu transmet de ses volontés, porté dans le cœur des saints. La tradition, c'est le vécu. Je dis bien le vécu des expériences religieuses et de l'adhésion du croyant à l'égard de Dieu qui lui parle. Les traditions sont toujours secondes, alors que la foi est première. Alors, j'adhère à des traditions. Pour adhérer à des traditions, faut-il la foi ? Ça dépend. Je peux adhérer à des traditions uniquement en disant que ces traditions sont vénérables. Ce sont des grandes traditions religieuses. Et je les regarde uniquement comme des traditions religieuses. J'y adhère. Avec piété. J'y adhère en reconnaissant que c'est très grand. Mais je peux adhérer à ces traditions en remontant à leur source. Et à ce moment-là, la foi est impliquée. Il faut pour le point de vue chrétien, si vous voulez, parce que c'est ça dont nous vivons. Bon, je peux adhérer à certaines traditions chrétiennes en voyant l'origine de ces traditions chrétiennes. Vous voyez, je parlais hier, point de vue de la vie religieuse. Je peux respecter ces traditions de la vie religieuse telles que l'Église les vit. L'esprit de virginité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de pauvreté. Je dis, c'est vénérable tout ça. Ça a formé des saints. C'est suffisant. Et j'entre dedans. Je peux remonter à la source et en disant c'est Marie qui a vécu cela. À ce moment-là, un acte de foi. Marie, mue par l'Esprit Saint, Marie, l'Immaculée, a répondu à Dieu en se consacrant totalement à Dieu. Le mystère de la consécration à Dieu, à ce moment-là, prend une nouvelle valeur parce que je suis remonté à la source, que j'atteins par la foi. Tandis qu'au contraire, je peux regarder les traditions religieuses d'une famille religieuse, tout simplement, ou de toutes les familles religieuses. Il y a quelque chose de commun dans toutes les familles religieuses. On se retrouve toujours. Il y a un esprit commun. Et ça, c'est les traditions religieuses. Et alors, les traditions religieuses, j'y adhère en tant que croyant, avec mon cœur de croyant, mais je ne fais pas un acte explicite de foi. J'y adhère parce que ces traditions sont vénérables. C'est beaucoup plus, voyez, l'attitude de piété filiale à l'égard d'une grande famille religieuse. La grande famille religieuse, c'est toutes les familles religieuses. C'est la piété filiale. La piété filiale n'est pas immédiatement un acte de foi. L'acte de foi est beaucoup plus intellectuel que la piété filiale. La piété filiale est d'ordre affective. Et dans la piété filiale, je reconnais la grandeur des traditions religieuses. Et je me coule dans ces traditions religieuses. C'est ce qu'on demandera au point de départ à quelqu'un qui entre dans la vie religieuse et qui dira « Ah, mais je voudrais savoir d'où ça vient !» Ne raisonnez pas trop, entrez dedans et puis vous comprendrez après. Et quand vous avez un esprit un tout petit peu trop raisonnable, vous dites « je veux savoir d'où ça vient ». Oui, vous verrez. Progressivement, petit à petit. Mais au début, on y entre. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à ce point de vue-là d'entrer dans la vie religieuse aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, donc quand j'y suis entré, on en entrer dans les traditions religieuses sans rien y comprendre, ça n'avait qu'une espèce d'importance. On savait d'avance qu'on se faisait, qu'on entrait pour entrer dans les traditions religieuses. C'est tout. L'esprit critique était moins fort. Aujourd'hui, l'esprit critique est beaucoup plus fort. C'est un fait. Vous n'en pouvez rien, du reste. C'est un fait. Et donc, on est obligé, aujourd'hui, pour entrer dans les traditions religieuses, de montrer beaucoup plus l'origine de ces traditions religieuses. Faire appel à la foi. Je crois qu'on ne peut pas éduquer autrement aujourd'hui. Au moins en France et en Europe. En Orient, la critique est moins forte. Parce qu'il n'y a pas Descartes comme grand-père. Tandis que quand il y a Descartes comme grand-père, c'est terrible, hein, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique qui risque de dissoudre. Hein. En Occident, il faut bien voir, la vie religieuse a été presque dissoute. La laïcisation d'esprit de la vie religieuse est très très forte. Et le Saint-Père l'a dit, et le Saint-Père l'a redit. Laïcisation d'abord, parce qu'on en voit donc premièrement le point de vue de l'habit, première chose, puis deuxièmement, ce que représente la vie religieuse, la vie régulière, ce que représentent les offices en commun, tout ça, jeté. Là, il n'y a plus qu'une vie individuelle. Et au bout d'un certain temps, la vie religieuse, on ne voit plus très très bien ce que c'est. Vous voyez la réaction, alors, il ne faut pas s'étonner de certaines réactions. Quand on est en face d'un dégel généralisé, alors il y a les icebergs qui risquent de tout écraser, parce que c'est le dégel généralisé. Et alors, à ce moment-là, on essaie de remonter à la source. Et on remonte à la source par le point de vue des vertus théologales. Et comprendre que c'est le mystère de Marie qui va nous redonner le sens de la vie religieuse. Donc vous voyez bien, je crois que on vit cela aujourd'hui. On vit ça très fort, c'est que le poids des traditions religieuses aujourd'hui n'ont plus du tout le même impact qu'il y a 50 ans. Il faut donc comprendre cela pour revenir à la source. Marthe le sentait très fort. On ne sauvera la vie religieuse qu'en revenant à la source. Ce que je crois profondément. C'est-à-dire en reprenant un regard beaucoup plus des vertus théologales. Et vous voyez, l'Église a senti, puisque avant, on parlait toujours des vœux de religion. Et l'Église elle-même, avec Vatican II, dit les vœux des conseils évangéliques. On voit très bien la différence. Les vœux des conseils évangéliques. Donc, on revient à la source. La vie religieuse nous fait vivre des conseils évangéliques, et non pas uniquement de la vertu de religion. Comment, face à un musulman ou un protestant pieux, c'est pas la même chose, faire comprendre que seule la religion chrétienne est parfaitement pure? La religion catholique en face du protestant. Hein? En face de tous nos frères séparés, autrement dit. Alors plus ou moins séparés. Parce qu'il y a des latitudes différentes. En face de ceux qui adorent tous le Dieu créateur, l'unité du Dieu créateur, alors les grandes religions monothéistes, toutes se rassemblent autour de l'adoration. Et c'est pour ça que je crois que le mystère de l'adoration doit être vécu aujourd'hui d'une façon très profonde. Parce que je ne crois qu'il ne peut pas y avoir d'œcuménisme au sens fort sans l'adoration. Revenir à ce qu'il y a de fondamental. l'adoration nous permet de comprendre ce qu'il y a de commun avec tous ceux qui reconnaissent le Dieu créateur. Ensuite, une fois que vous avez cette notion commune vécue, vous comprenez bien, c'est-à-dire dans la mesure où vous êtes en état d'adoration. Je crois que c'est que quand Marie est dans un état d'adoration, que l'ange entre chez elle. L'ange Gabriel entra chez elle. Je crois qu'un ange ne peut entrer chez nous que quand on est en état d'adoration. Demandez aux anges. Autrement, la porte est fermée. Quand vous êtes dans un état d'orgueil, de domination, vous croyez que l'ange peut entrer chez vous? Pas du tout. Il est trop respectueux. Harry vous laisse tranquille. Tandis que quand vous êtes dans un état d'adoration, les portes sont ouvertes. Et l'ange peut entrer chez vous. C'est pour ça que je dis, c'est très important. Il faut le contact avec les musulmans, un protestant pieux, j'espère que le musulman est pieux, c'est-à-dire pour qu'il y ait le contact. S'il n'y a pas ce contact en acte, et je dis bien contact en acte, dans l'adoration, on ne peut rien faire. Vous discuterez sans s'étendre. Parce que je sais ce que c'est que les discussions avec les protestants. J'ai voulu le vivre exprès une année quand j'étais à Fribourg. On disait le œcuménisme, alors donc entre pasteur et puis théologien catholique. Alors on se réunissait, on disait une prière, c'était déjà pas mal, en commun, c'était bien. Mais dès que la prière était terminée, on reprenait ses positions de théologien, et dans les discussions, alors on allait aux sources. Luther, Calvin, nous, Thomas d'Aquin, ou l'autorité de l'Église actuelle. Et puis de temps en temps, l'Écriture, source commune, mais deux interprétations différentes. On pouvait discuter sans s'étendre. Parce que, de fait, on a organisé son système théologique. Si on ne revient pas à la source commune, il n'y a pas moyen. Alors j'aimais de dire, avec les protestants, si nous aimions le Christ pleinement, on serait tous un. Donc c'est parce qu'on ne l'aime pas assez. Et c'est vrai. On met nos opinions avant le Christ. Alors, si on regarde comme ça, il n'y a pas moyen, on peut discuter sans s'étendre. Si on aime le Christ parfaitement, on veut qu'une seule chose, c'est de lui obéir. Alors, on est déjà dans une attitude, vous voyez, d'adoration. Et on regarde notre frère protestant d'un autre œil. On essaie de regarder comme Dieu le regarde, comme Jésus le regarde. Comment Jésus regarde-t-il un protestant pieux? Comment Marie regarde-t-elle un protestant pieux? Comment Jésus... Alors, pour les musulmans, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je dis, c'est pas la même chose, c'est pas le même degré. Quand il y a le mystère du Christ et l'adhésion au Christ en commun, c'est Jésus. On passe de l'adoration à l'intimité et l'unité avec Jésus. Et à partir de là, on peut comprendre ce que c'est que l'unité. Parce que Jésus veut l'unité, qu'il soit un comme nous. Bon, qu'on soit catholique ou protestant, cette parole de Jésus s'impose à nous. Et donc on veut à tout prix l'unité. Or on sait que l'unité ne se fera que par lui et en lui, pas autrement. Donc il faut accepter de se dépasser pour redécouvrir cette unité dans le Christ. Quand il s'agit d'un musulman, c'est beaucoup plus difficile, puisque je ne peux pas dire qu'avec les musulmans, l'unité sera dans le Christ. Je ne peux pas dire avec les musulmans que l'unité sera dans Mahomet. petit gosse musulman dont je vous ai déjà parlé, de 10 ans, qui après avoir parlé avec moi pendant une heure, me regarde et dit « Pourquoi n'es-tu pas musulman, puisque tu es chrétien ?» Alors je dis « Parce que je suis chrétien, c'est pour ça que je ne suis pas musulman. » Puis j'explique un tout petit peu. Je dis « Pourtant, si tu es chrétien, tu dois être musulman, parce que tu crois dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, Jésus a dit qu'il a enverré le prophète, le dernier. » Alors je dis « Le paraclet, oui, le paraclet !» Vous ne savez pas très bien ce que ça voulait dire, vous savez rien. C'est Mahomet. Identification du paraclet du Mahomet. Oui, dans l'évangile de Saint Jean. Alors je dis « Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. » Puis on a commencé à discuter. C'était très gentil, c'était merveilleux. Discuter théologie entre Mahomet et le paraclet avec un petit gosse de 10 ans, c'est merveilleux. Les anges devaient écouter avec attention. Mais je voyais très bien comme c'est difficile. Parce qu'on n'a pas le Christ. Quand vous êtes avec un protestant, un gosse protestant, qui aime Jésus, mais oui, vous êtes de plein pied, il aime Jésus. Quand il aime plus l'Ancien Testament que le Nouveau, ah, vous voyez la différence. Ce qui arrive très souvent avec les protestants. Les protestants aiment énormément l'Ancien Testament. Souvent. Et alors, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que je voyais à Paris, quand on a un petit groupe de protestants et qu'on a fait venir Hansenberg à notre petit groupe, eh bien, les protestants, tout de suite, se mettaient à l'école du rabbin. Ils se mettaient à son école, en disant, c'est le frère aîné. Il connaît l'écriture mieux que nous. Alors, c'était déjà très délicat, mais c'était intéressant, parce qu'on voyait sur quel aspect on pouvait, de fait, montrer que ce n'était pas vrai. Nous connaissons l'Écriture à travers le Christ. Donc nous connaissons mieux l'Écriture que si on connaissait que l'Ancien Testament, qui est imparfait. Évidemment, c'est très difficile à faire comprendre ça à un Israélite, parce que Jésus n'est pas là. Un Juif, Jésus n'est pas là. Un musulman, Jésus n'est pas là. Il n'est qu'un prophète. Alors c'est très difficile d'arriver à faire comprendre ça. Alors je crois que c'est l'adoration. Toujours revenir au point commun. Parce que on ne peut pas dialoguer s'il n'y a pas le point commun. En acte. Et donc l'adoration en commun. Et cette adoration, qui est un acte personnel, doit permettre de découvrir dans le Créateur le mystère de Dieu qui nous parle et respecter à ce moment-là la parole de Dieu. Je crois que c'est la seule manière. Alors je sais très bien qu'il dira « Nous aussi, il parle, mais d'une autre manière. » Je dirais « Oui. » Alors on verra qu'est-ce qui est le plus parfait, même par rapport à la création. Ce que dit l'islam et ce que dit le christianisme. Et on verra que la conception de la création n'est parfaite que dans l'Église catholique. Dans l'islam, il y a le fatalisme. L'islam est fataliste. Dans l'islam, il n'y a pas l'amour de l'autre. Je me souviens, c'était en Afrique, en Algérie. Je me suis trouvé devant une sœur. Vous savez, quand les sœurs sont converties à l'islam, il n'y a rien de pire. Alors c'était une brave sœur qui, par amour pour les musulmans, pratiquement s'était convertie à l'islam. Je ne voyais plus très bien ce qu'il y avait de chrétien en elle. Elle était chrétienne, oui, elle était chrétienne, mais bon, elle était l'islam, c'était l'islam. C'est si grand l'islam, c'est si grand l'adoration. Je dis oui, ils adorent, mais le contenu de leur adoration... Oh, je ne peux pas regarder ça. C'est si grand, ils adorent. Vous voyez bien, ils n'ont aucun respect humain, ils adorent. Oui, mais le respect humain n'est pas l'adoration. Essayez de comprendre, voyez, et regardez les choses accidentelles et ne regardez pas la propriété. Qu'est-ce qui est le caractère propre de l'adoration? Alors, ils adorent sans respect humain, c'est très beau. C'est vrai que les chrétiens ont beaucoup plus de respect humain que les musulmans. C'est ordinairement, peut-être, ils ont peut-être plus de pudeur. Alors, c'est plus un respect humain, c'est une pudeur. Ils ne veulent pas blesser les autres. Les autres, tout s'affirme. Le musulman affirme avec une force énorme. Et quand vous regardez d'où ça vient, ça, il y a un certain fanatisme religieux latent. Pourquoi? Parce qu'au fond, Dieu ne passe jamais par le prochain. Vous êtes toujours seul avec Dieu. Et c'est là, je crois, l'erreur fondamentale. Alors que l'adoration véritable, si on pousse jusqu'au bout, l'adoration véritable me donne le respect de l'autre, parce qu'il est créé aussi par Dieu, à l'image de Dieu. Et donc, il peut y avoir ce respect à l'égard de l'autre, et cet amour à l'égard de l'autre, déjà dans l'adoration. Évidemment, tout ça ne prendra toute sa signification plénière qu'avec Jésus, mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y a l'amour du prochain. Et il y a le respect du prochain, parce qu'il est créé, comme moi, l'image de Dieu. Donc vous voyez, c'est par là que je peux montrer que dans l'islam, il y a quelque chose qui, au point de vue de l'adoration, ne va pas jusqu'au bout. Et donc, il y a là déjà quelque chose qui n'est pas au point. Alors quand je disais ça à cette brave sœur, c'est est-ce que dans l'islam, il y a un amour pour le prochain? Alors elle était coincée. Quand vous faites une bonne action par rapport à quelqu'un qui est un musulman et qui est vraiment musulman, elle dira, c'est pas vous, c'est Allah qui le fait. Allah s'est servi de vous, mais c'est pas vous du tout. Vous voyez? Télescopage d'écoseconde. Télescopage d'écoseconde. Il n'y a pas de coseconde. On est directement relié avec Allah. Immédiatement. Alors à ce moment-là, il y a un fanatisme qui peut se créer très facilement. Puisque je suis seul juge de ce que Dieu me dit. Et je vais jusqu'au bout. Tandis que s'il y a un respect de l'autre, je sais que si je ne respecte pas l'autre, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que Dieu respecte plus le prochain que moi je ne le respecte. Et que plus j'adore Dieu, plus j'ai le respect à l'égard de l'autre. Donc, c'est essayer de comprendre. C'est ce que nous allons faire hein, en éthique religieuse. On essaie de comprendre comment l'adoration m'ouvre vers le prochain. Une véritable adoration me donne un respect vis-à-vis de l'autre. Et donc, donne tout de suite à l'éthique une nouvelle dimension. Par l'adoration. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment l'adoration qui est l'expérience fondamentale d'une éthique religieuse. Ça, nous le verrons progressivement, mais là je souligne simplement ça pour que vous puissiez réfléchir sur le fanatisme religieux dans l'islam. Vous allez me dire, dans toutes les religions il y a un fanatisme. C'est vrai. Et qui ne provient pas du contenu religieux de la religion, mais qui vient de l'homme. Parce que les passions religieuses sont les passions les plus véhémentes avec les passions politiques. Et quand la passion politique et la passion religieuse s'identifient, vous avez fatalement un fanatisme. C'est le phénomène du fanatisme. C'est lorsque la passion religieuse s'identifie à la passion politique. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez nécessairement le soldat de Dieu. Pas l'émule, mais le soldat. Donc plus vous coupez de tête, plus vous plaisez à Dieu. Plus que vous coupez de tête ennemi, vous comprenez, c'est vous plaisez à Dieu. Ce sont les razzias. Il n'y a pas le respect de l'homme. Il n'y a pas le respect de l'image de Dieu. Ça me semble très net. Enfin, c'est un phénomène qu'on doit étudier. en éthique religieuse, le fanatisme. Parce que le fanatisme, c'est, je crois, la caricature de l'attitude religieuse. Et il y a toujours une petite tentation à ça. Toujours. Il faut toujours essayer de comprendre. Vous voyez, exactement comme la caricature de l'éthique humaine, c'est un amour d'amitié utilitaire ou de jouissance. Il y a une caricature de l'éthique religieuse qui est le fanatisme. Parce que je crois que ça, c'est très important d'étudier les caricatures et gargouilles. C'est toujours très intéressant parce que on voit mieux quelquefois dans la caricature que dans ce qui est positif. Si l'éthique humaine repose sur l'amour d'amitié, les deux caricatures de l'amour d'amitié, c'est l'amour utilitaire et c'est l'amour de jouissance. On aime l'autre parce qu'il nous procure de la joie, une jouissance. On aime l'autre parce que c'est très efficace. Alors c'est les caricatures de l'amour d'amitié. Et à ce moment-là, vous voyez très bien comment l'amour d'amitié se dégrade. Eh bien, en éthique religieuse, si vraiment c'est l'expérience de l'adoration qui est fondamentale, vous pouvez dire que c'est le fanatisme qui est la grimace et la superstition. Toujours deux grimaces. Alors essayons de comprendre, essayons de revenir sur ce que nous disions la dernière fois, qui me semble très important. C'est peut-être difficile pour certains à bien comprendre, mais c'est très important de comprendre que c'est vraiment l'expérience de l'adoration qui va fonder une nouvelle dimension à l'éthique humaine. Et c'est pour ça que j'ai insisté. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? Bon, nous en avons tous l'expérience, grâce à Dieu. L'adoration, c'est reconnaître le primat absolu de Dieu sur moi-même. C'est reconnaître que Dieu passe devant. C'est reconnaître. Donc, il y a un acte de politesse dans l'adoration. On reconnaît que Dieu passe devant, parce qu'il est premier. Et c'est la reconnaissance de ce qui est premier, de celui qui est premier. Celui qui est premier, alors, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la lumière, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'être. Alors là, vous trouvez les différentes modalités de l'adoration. Reconnaître que Dieu est le premier dans l'ordre de l'amour. C'est nécessairement offrir sa capacité d'aimer à Dieu. Et c'est vrai, c'est difficile d'aimer Dieu. Il faut reconnaître qu'on est totalement dépendant de lui et que tout vient de lui et qu'il nous a aimés le premier. Je crois que c'est ça qui permet d'aimer, de cet amour naturel de Dieu. Aimer Dieu comme une partie, comme dit saint Thomas, une partie d'un tout. Très extraordinaire. Quand saint Thomas dit ça, que l'amour naturel que nous devons avoir de Dieu, c'est d'aimer Dieu comme un tout et nous comme une partie. C'est assez délicat comme analogie, mais ça manifeste bien la prise de conscience qu'on peut avoir en tant que créature. On est totalement dépendant de Dieu, comme la partie est totalement dépendante du tout. Parce qu'on a tout reçu de lui. Alors, on l'aime parce que c'est lui qui nous a créés par amour. Et parce qu'il nous a créés par amour, il veut susciter en nous un amour. Et cet amour premier et fondamental, c'est l'adoration. L'adoration est un acte d'amour. Un acte d'amour très radical. On s'offre à Dieu. Et on offre tout ce qu'on est. Tu es le premier amour. Et c'est pour ça que l'adoration implique cette ferveur de rejoindre ce premier amour. Il y a une ferveur dans l'adoration. Tu es source de toute lumière. Toute ma connaissance que je peux avoir de Dieu vient de Dieu. Et donc à ce moment-là, grâce à la connaissance que j'ai de Dieu, je ne peux pas dévier de l'adoration. Je sais que je suis dépendant de lui et que lui m'a créé dans sa sagesse. Il a voulu que je sois dans sa sagesse. La création ne modifie rien à Dieu. Je n'ajoute rien à Dieu. Dieu ne me crée pas par nécessité, parce qu'il a besoin de moi. Non. Dieu crée par pure gratuité. Et je n'ajoute rien à Dieu. Ça, c'est une des questions très importantes pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Je n'ajoute rien à Dieu. Et c'est là où Épictète n'a pas été assez loin. Alors que nous devons nous comprendre cela. Ça fait partie de cette adoration très profonde que tout notre être vient de Dieu. Et qu'avant que Dieu nous crée, nous n'étions rien. Nous n'avons pas une vie antécédente. Et alors, nous reconnaissons la gratuité de cet acte. Et par le fait même que nous reconnaissons cette gratuité, nous reconnaissons que l'adoration exige que tout soit brûlé et offert. Et c'est en ce sens-là que vous voyez que l'adoration conduira à l'Holocauste. Et comme je ne peux pas me brûler, je brûle une victime à côté de moi pour signifier que tout est brûlé. C'est vrai, je n'ai pas un pouvoir sur ma vie de faire comme le bonze qui verse la bouteille de pétrole, puis après l'allumette. Je ne peux pas faire ça. Parce que ça, c'est un manque de respect à l'égard de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu et je le reconnais. Et donc, je ne m'appartiens pas dans mon être. Et si je ne m'appartiens pas dans mon être, je ne peux pas offrir ma vie d'une façon violente. Je ne peux l'offrir qu'en dépendance absolue à l'égard du bon plaisir de Dieu sur moi. Ça, ça fait partie de la connaissance que nous devons avoir. Dieu est source de toute ma vie, de tout moi-même comme vivant. Ce qui fait comprendre comment, dans l'adoration, il faut que le vivant qui est moi coopère à cette adoration. Il n'y a pas de véritable adoration sans que notre corps, qui fait partie de notre vie, coopère. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'expression corporelle. Quand vous adorez, votre corps adore par votre âme. Mais vous ne pouvez pas adorer en disant « j'adore d'une façon abstraite ». Non, l'adoration est un geste d'amour qui implique que tout votre corps est engagé. Et c'est pour ça qu'on cherche une manière particulière d'adorer. On se met par terre, on se met à croupes pattes. Tout notre corps adore. Et il doit adorer. On se met à genoux. Autant que possible, on n'adore pas assis, sauf quand on est fatigué. Jésus, quand il est fatigué, s'assied. Donc à sa suite, on peut s'asseoir. Mais autrement, on s'offre dans l'amour. Enfin, l'adoration, c'est tout notre être à partir de rien, puisque Dieu nous crée à partir de rien. Donc il faut que tout en nous soit remis à Dieu, dans sa plénitude. Et Dieu agit directement, substance à substance, sur ce que nous sommes Et Dieu seul agit de cette manière directe. Puisque dans la création, il n'y a pas de médiateur. Si saint et si grand que soit ce médiateur, il ne peut pas exister au niveau de la création. L'humanité sainte de Jésus n'est pas instrument de la création. Alors que ce serait le seul instrument qui pourrait être l'instrument de la création. Mais il n'y a pas d'instrument de la création. Il ne peut pas y en avoir, métaphysiquement parlant. Pourquoi ? Parce que la création, c'est le premier facturé. C'est la première action de Dieu. Si c'est la première action de Dieu, cette action est substantielle. Elle ne présuppose rien. Elle est à partir de rien. Alors on comprend comment le retour vers Dieu dans l'adoration implique que tout lui soit donné. Il y a un certain absolu dans l'adoration, puisque c'est reconnaître que tout est dans les mains de Dieu. In manus tuas, dans les mains de Dieu. Et quand vous adorez, vous remettez tout entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une main qui adore et l'autre main qui continue de travailler. Non, il y a un arrêt, un dépassement du travail, un dépassement de ce que nous faisons habituellement. Pour revenir auprès de Dieu, auprès du Créateur, tout lui remettre.